Bonjour à tous. Je suis content de vous voir. J'espère que Jaffa a fait une différence pour vous jusqu'à présent. Et ce n'est pas terminé. Lorsque l'équipe, on se réunissait pour trouver un thème et qu'on a finalement trouvé tout ou rien, au début, on n'était pas trop sûr comment finir le tout ou rien. Est-ce qu'on faisait tout ou rien comme ça, tout ou rien, point d'exclamation, tout ou rien, trois points de suspension. Et avec les messages que j'ai entendus, parce que ce qui est merveilleux dans ce genre de conférence, c'est qu'on voit vraiment l'esprit travailler et les présentateurs, sans se consulter, on voit il y a un fil conducteur. Et j'aurais presque aimé vouloir dire que le Saint-Esprit est en train de compléter le thème. C'est vraiment tout ou rien, trois points de suspension, pas d'excuses. Parce qu'on voit vraiment qu'on a tout pour prendre des décisions et pour avoir la puissance de les mettre en pratique. Et ma prière, c'est vraiment qu'en sortant d'ici aujourd'hui, on comprend qu'on a tout reçu. Il reste qu'à apprendre, l'accepter et laisser le Seigneur par son Saint-Esprit l'incorporer. Alors, juste avant de prier, on va s'agenouiller ensemble afin que vraiment le message que je vais partager soit compris et reçu. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci de nous avoir parlé. Pas une fois, pas deux fois, mais continuellement. Tu as toujours un message pour nous, Seigneur, parce que ta vie, c'est comme une sève qui coule en continu dans une plante. Et nous devons la recevoir, Seigneur, pour rester en vie de la même manière que nous devons inspirer et expirer à chaque instant pour que le souffle de vie fasse son travail. Seigneur, le message que j'ai partagé, je l'ai vraiment à cœur et je crois que tu l'as à cœur encore plus que moi pour tes ambassadeurs. Puisses-tu mettre complètement tes mots dans ma bouche et aussi formuler la façon dont tu veux que ça sorte pour laisser l'impression la plus profonde dans les cœurs. Père éternel, que cette nourriture qui s'apprête à être reçue soit assimilée, digérée, fasse son effet dans notre corps spirituel. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous te prions. Amen. Dans un des nombreux miracles que Jésus a fait, on nous raconte dans Marc 7 l'histoire d'une femme qu'on dit syrophénicienne parce qu'elle venait de la contrée de Tyr et de Sidon. Et vous vous rappelez l'histoire de cette femme, Jésus passe et elle vient à lui pour qu'il guérisse sa fille qui est possédée d'un esprit malin. Et là, le Seigneur va dire une des choses les plus choquantes qu'on va entendre dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas bien de donner la nourriture des enfants pour les donner aux chiens. Et on apprend qu'il voulait vraiment donner une leçon aux disciples par rapport à ça. Et un jour, j'étudiais cette histoire-là. Et un détail a sauté à mes yeux. Et ce n'est pas l'histoire de la femme en tant que telle, mais c'est au sujet de Jésus. On a été appelé à contempler le divin modèle depuis le départ. Et aujourd'hui encore, on va contempler Jésus. Et en le contemplant, notre parfait exemple, on va voir ce qu'il attend de nous et comment peut-on faire pour le refléter. Et on va lire ça dans Matthieu 7, verset 24. C'est vraiment l'introduction à l'histoire qui m'intéresse plus ce matin. Marc 7, le verset 24. Au début, je lisais cette histoire, puis j'étais comme, bon, OK, je connais l'histoire. Seigneur, qu'est-ce que tu as montré de plus dans l'histoire de cette femme-là? Et c'est dans le verset 24 qu'il a vraiment ouvert toute une porte. On nous dit au verset 24, « Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. » Et quand vous étudiez la Bible, là, vous devez vraiment la lire de façon interactive. Dès qu'il y a quelque chose qui saute à vos yeux, dès que vous avez une interrogation, posez la question. En général, c'est parce que le Saint-Esprit est en train d'attirer votre attention sur quelque chose. Alors, tandis que j'étudiais ce passage-là, je me suis demandé, mais pourquoi Jésus ne voulait pas qu'on sache? Pourquoi il est rentré dans une maison ne voulant pas qu'on sache qu'il entre dans cette maison-là? Et ensuite, on nous dit qu'il n'a pas pu rester caché à cause que cette femme l'a trouvé. En fait, dans Jésus-Christ, ce qu'on nous dit, c'est qu'il voulait enseigner ses disciples parce qu'il avait passé beaucoup de temps à guérir et tout ça. Puis là, il voulait prendre un petit peu de temps pour commencer à enseigner encore des choses à ses disciples parce que là, son temps approchait. Mais c'est vraiment cette question, pourquoi tu voulais rester caché? Tu voulais pas que personne le sache, mais il ne peut rester caché. Et ce que j'aime avec la parole, c'est que moi, j'ai un esprit qui fonctionne par association. Dans la Bible, quand vous avez un mot-clé, s'il se trouve ailleurs, c'est qu'il y a une connexion entre les textes. C'est un peu comme vous tapez dans Google. Si vous voulez faire une recherche et vous tapez un mot-clé, il y a plein de choses qui vont sortir. Mais si vous avez deux ou trois mots-clés, vous risquez d'atterrir sur le premier site immédiatement. Donc, l'expression « il ne peut rester caché », ça fait penser au passage qui nous parle de la lumière du monde. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon message « La lumière du monde ». Il ne put rester caché. Et Jésus a dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie. » Et dans Jean 9, 5, juste après, il va dire « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Il a été la lumière du monde jusqu'à ce qu'il meure et qu'il ressuscite. Et ensuite, cette lumière a été transférée. À qui? À ses disciples. Allons ensemble dans Matthieu 5, verset 14. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » La réflexion à laquelle je veux qu'on s'attarde aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait d'un chrétien la lumière du monde comme Jésus, au point que même lorsque tu vas quelque part et que tu veux passer incognito, tu ne peux pas rester caché. Alors, ce qu'on va faire, on va étudier quelques personnages pour découvrir à travers la vie de ces personnages quelques caractéristiques qui ont fait d'eux des lumières du monde et aussi dans quelles circonstances ils ont été appelés à briller. Et en les étudiant, on va découvrir des choses pour nous. Les deux premiers personnages dont je vais vous parler, je vais vous en parler en même temps simplement parce qu'ils ont eu des vécus similaires et un trajet similaire. Et les deux illustrent deux principes. Le premier, il s'agit de Joseph et Daniel. Le premier, on connaît son histoire, vendu par ses frères, il descend en Égypte, il passe du temps dans la maison de Potiphar, va ensuite aller en prison, ensuite sortir de prison pour interpréter des songes pour Pharaon et devenir l'intendant d'Égypte. On peut trouver le premier principe dans Genèse 39, les versets 9 à 12. Genèse 39, versets 9 à 12, je vous invite à y aller avec moi. Versets 9 à 12, on nous raconte un petit peu son histoire, mais le principe que je veux dégager se trouve dans ces versets. On nous dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Donc c'est Joseph qui parle lorsque la femme de Potiphar va venir le séduire. Puis il dit, bon, voici mon maître, au verset 8, ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Puis là, bon, elle va essayer. Un peu plus loin, on nous dit que, au verset 10, quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Ce qu'on voit, et ça va aller aussi loin que lorsque là, elle va vraiment passer... Si on veut, à la persécution morale, à la persécution physique, il va s'enfuir. Donc, un premier principe qu'on trouve, c'est la fidélité à Dieu en gardant ses commandements. Si vous voulez être une lumière du monde, ça commence par la fidélité à Dieu. Ici, on a vu que, dans ces circonstances, Joseph avait choisi de demeurer fidèle au commandement de Dieu qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Et on retrouve aussi cette caractéristique chez Daniel. Parce qu'on sait que Daniel avait décidé d'être fidèle à Dieu, par exemple, lors du test de la nourriture. Le texte dans Daniel 1 nous dit qu'il résolut de ne pas se souiller. Donc, il y a d'abord vraiment une résolution d'être fidèle à Dieu. Au sujet de Joseph, dans Patriarches et Prophètes, on va nous dire ceci à la page 192. On va nous dire, ayant de tous côtés le spectacle du vice, ayant de tous côtés le spectacle du vice, il sera comme quelqu'un qui n'entend rien, qui ne voit rien. Il ne permettra pas à ses pensées d'errer sur des sujets défendus. Et surtout, il ne cachera pas ses principes pour obtenir la faveur des Égyptiens. S'il le faisait, il succomberait à la tentation. Au contraire, il n'aura pas honte de la religion de ses pères et il ne laissera ignorer à personne qu'il adore Jéhovah. Donc, c'est pas comme s'il disait, moi, j'adore le Dieu vivant, laissez-moi tranquille, mais à travers sa manière de vivre, il va laisser ignorer à personne qu'il sert Jéhovah. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il va pas permettre ses pensées d'errer sur des sujets défendus. On a parlé beaucoup de la conscience, etc. C'est ce qu'on a de plus sensible, c'est ce qu'il faut vraiment protéger. Alors, comme Job, il va faire un pacte avec ses yeux, mais aussi avec sa pensée. Parce qu'il savait que il succomberait s'il ne restait pas fidèle. Donc ça, c'est un premier principe. Ensuite, dans Daniel 1, 8, on a vu ça. On a vu dans Daniel 6, 10, dans l'histoire de la fosse au lion, que Daniel était resté fidèle à Dieu lorsqu'on lui a interdit de prier à quelconque autre Dieu que Darius. Il va décider que lui va continuer à prier, puis il ne va même pas fermer ses fenêtres pour se cacher. Un deuxième point, on peut trouver ça toujours dans l'histoire de Joseph. Qu'est-ce qui fait que tu es un esclave hébreu et que ton maître s'occupe d'absolument rien si ce n'est de savoir qu'est-ce qu'il va manger? Il y a quelque chose dans la vie de Joseph qui faisait que finalement il était quasiment maître dans la maison de son maître. En fait, c'est que Joseph prônait l'excellence. Son travail devait vraiment être bien fait. Il devait sûrement le faire avec qualité au point que tu fais tellement ça bien, je te donne le contrôle de tout. Et ça, c'est un deuxième principe. Si on veut être la lumière du monde, on doit viser l'excellence. Toujours dans Patriarches et Prophètes, à la page 193, on nous dit ceci, parce que vous savez que tout a commencé à prospérer dès que Joseph a été dans la maison de Potiphar. On nous dit que la prospérité visible qui marquait tout ce qui était remis aux soins de Joseph ne procédait pas d'un miracle direct. C'était son habileté, son application, son énergie qui était couronnée de succès. Joseph l'attribuait à la faveur de Dieu et son maître lui-même voyait là le secret de sa réussite extraordinaire. Mais celle-ci n'aurait pas existé sans une vigilance intelligente et infatigable. Dieu était glorifié par la fidélité de son serviteur, dont la pureté et la droiture formaient un contraste frappant avec les mœurs des idolâtres et faisait briller les grâces célestes au sein des ténèbres du paganisme. Hier, Wesley nous a parlé de Noé, qui avait été trouvé juste devant Dieu en son temps. Et on avait vu que les temps où vivait Noé, c'était des temps d'extrême corruption. Mais Joseph, c'était la même chose. Et on a vu que c'est pas juste le Seigneur qui a dit « Ok, t'es là pour que rendre un bon témoignage, je vais te rendre de telle manière que tu vas être en faveur. » C'était vraiment le divin et l'humain ont collaboré ensemble et ça a donné la prospérité. Dieu a pu bénir le travail diligent et excellent de Joseph afin de le faire prospérer. C'était la même chose pour Daniel, parce que dans Daniel 6, on sait que les gens qui avaient de l'autorité essayaient de le faire tomber. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont examiné son travail, ils ont essayé de trouver une faute qu'il aurait commis, puis ils n'ont pas été capables, ils n'ont rien trouvé au sujet de Daniel. Je crois qu'on nous dit dans Daniel 6, verset 4. Ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Ça veut dire que Daniel avait une intégrité dans la manière d'exécuter son travail qui ont permis qu'il était sans reproche. Alors le Seigneur cherche cette excellence chez nous et ça va nous contribuer à faire de nous la lumière du monde. Donc fidélité à Dieu en gardant ses commandements, intégrité et excellence. Si vous vous rappelez Paul, lorsqu'il parle à Timothée, qui était un jeune qui a vraiment consacré sa vie à Dieu, un des conseils qu'il va lui donner dans 2 Timothée 2:15, c'est quelque chose comme « Efforce-toi de te présenter comme un ouvrier éprouvé qui n'a pas à rougir de ce qu'il fait. » Et Timothée, on sait qu'il a vraiment été rempli d'Esprit Saint pour faire des grandes choses. Il avait une autorité et une influence à un très jeune âge. Mais Paul lui disait « Efforce-toi de te présenter comme un ouvrier éprouvé qui n'a pas à rougir de ses œuvres » ou quelque chose comme ça. Intégrité, excellence. Ce qui est intéressant avec Daniel et Joseph, c'est qu'ils sont partis de nulle part, captifs qu'ils étaient, et ils sont devenus la lumière du monde, mais ils ont accédé à une haute sphère, si vous voulez, corporative, et c'est comme ça qu'ils ont pu briller parce qu'ils étaient littéralement à la tête et non à la queue. Donc, à travers ça, par exemple, chaque fois qu'ils sont restés fidèles, c'était... Par exemple, Daniel, c'était Nebuchadnezzar lui-même qui disait que tout le monde reconnaisse que le Dieu de Daniel est le seul Dieu. Et là, c'est Nebuchadnezzar qui prêchait l'évangile à toutes les nations parce que comme il dominait sur toutes les nations recevaient ce message-là. Joseph, la famine était partout, donc tous les gens ont dû venir et à travers Joseph ont connu le seul vrai Dieu. Mais sa fidélité à Dieu et son intégrité et son excellence ont contribué pour beaucoup. Et ils ont pu être la lumière du monde en étant placés dans une haute sphère publique. L'autre personnage dont je veux vous parler, c'est dans le Nouveau Testament. C'est Marie-Madeleine. Cette personne-là, vous vous rappelez, après que le Seigneur avait chassé 7 fois des démons d'elle, elle a été vraiment reconnaissante. Elle avait un vase d'albâtre et elle est allée l'offrir à Dieu. Ou plutôt à Jésus. Elle a versé ça sur lui, sur ses pieds. Elle l'a oint, elle a pleuré, essuyé ses pieds avec ses cheveux. Et dans son histoire, on trouve un deuxième principe pour être la lumière du monde, de cette lumière du monde qui ne peut être restée cachée. Dans Jésus-Christ, à la page 553, on nous dit ceci. C'est intéressant. Ah oui, juste avant, au sujet de Joseph, ce qu'on nous dit, c'est que l'amabilité, la probité du jeune captif, probité, ça veut dire un travail honnête, là, quelqu'un qui travaille vraiment de façon honnête, finir par toucher le cœur du capitaine de la garde qui en vient le regarder comme son fils plutôt que comme un esclave. Donc, ces caractéristiques lui ont gagné la faveur. Il savait qu'on n'essaierait pas de le voler, Potiphar, alors... pas Potiphar, mais quand il est allé en prison aussi, il a gagné la faveur parce qu'il travaillait de façon tellement bien que les gens étaient touchés par ça. Donc, pour Marie-Madeleine, Jésus-Christ, page 553, on nous dit « elle avait espéré passer inaperçue. Mais le parfum en se répandant dans la salle attira l'attention de tous les assistants. » Et un peu plus tard, Jésus va dire « En vérité, je vous le dis, déclare le Christ. » Partout où l'Évangile sera prêché dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. On sait que cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il a dit partout où l'Évangile sera prêché dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans son geste? En fait, Marie-Madeleine, elle avait un cœur débordant d'amour pour Jésus. Et ce cœur qui était débordant d'amour pour Jésus l'amenait à exprimer cet amour d'une manière que ça n'a pas pu passer inaperçu. Quand Abou nous parlait de l'effigie de la perfection, il avait parlé des deux niveaux du service à Dieu. Ce niveau où on peut s'abstenir de faire ce qui est mal, faire ce qui est bien, mais que la perfection où le Seigneur voulait nous amener, c'est où l'amour jaillit de l'intérieur. Et elle, pour son sauveur, elle avait ce type d'amour-là. Un peu plus loin, toujours dans son histoire, voici ce qu'on nous dit. Plongeant son regard dans l'avenir, le sauveur parlait de l'évangile avec une certitude absolue. Cet évangile devait être prêché dans le monde entier. Et partout il se propagerait, Le don de Marie répandrait son parfum et cet acte spontané serait une source de bénédiction pour beaucoup de cœurs. Des royaumes s'élèveraient et s'écrouleraient. Des noms de monarques et de conquérants tomberaient dans l'oubli. Mais les pages de l'histoire sainte rendraient immortel le geste de cette femme. Jusqu'à la fin des siècles, ce vase d'albâtre brisé dirait le grand amour dont Dieu a aimé une race coupable. On nous dit aussi que lorsqu'elle a fait ça, elle ne comprenait pas bien ce qu'elle faisait. Elle voulait juste rendre des hommages à Dieu d'une manière ou d'une autre. Elle avait entendu parler qu'il allait mourir, puis il semble que c'est de tous les disciples, c'est la seule qui a cru que ça allait vraiment arriver. Donc, elle voulait d'avance lui apporter des hommages. Mais là, tout le monde parlait que non, il a fait tous ses miracles. Peut-être finalement, il ne va pas mourir, mais il va établir son royaume. Fait qu'elle était comme, oh, mais tant mieux. S'il va être roi, ben, je veux lui apporter mes hommages. Qu'il meure ou qu'il va être roi, je veux lui apporter mes hommages. Et on nous dit que son histoire va servir de témoignage. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une phrase clé dans Luc 7, 47 au sujet de Marie-Madeleine. On sait qu'il y avait d'autres personnages présents au souper, dont l'autre qui était Simon. Et le Seigneur va lui faire un doux reproche. Et il va dire quelque chose au sujet de Marie-Madeleine qui m'a beaucoup touchée. Dans Luc 7, au verset 47, on te dit, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » Elle a été témoin de la grâce de Dieu. Elle a beaucoup aimé. Puis à cause de cet amour qui sort de la gratitude d'avoir ses péchés pardonnés, elle a beaucoup aimé. Donc, c'est pour les gens qui expérimentent vraiment la grâce de Dieu, ça donne ce résultat. Hier, Jean-Guy nous parlait justement de Patrick, comment Patrick, sa gratitude l'amenait à donner à Dieu. C'est un petit peu la même chose. C'est, tu reçois quelque chose qui te touche tellement dans ton plus profond, que ça t'amène à faire des gestes qui peuvent paraître peut-être excessifs pour d'autres, mais on a vu que le Seigneur ne l'avait pas reproché, avait même dit qu'elle avait fait une bonne action. Donc, comment est-ce que Marie-Madeleine a été la lumière du monde? Je dirais, ben, par son amour débordant pour le Christ, et si je pouvais le traduire ainsi, par son culte personnel à Dieu. Si vous avez une relation intime et personnelle à Dieu, vous allez lui rendre un culte qui ne pourra pas rester caché, même juste dans votre manière de vous tenir ou les gestes que vous allez faire pour lui. Vous ne pourrez pas les garder juste pour vous, même en public, vous ne pourrez pas résister. Alors, elle a son culte personnel à Dieu, sa manière d'adorer son Dieu a fait d'elle la lumière du monde. Et c'est intéressant parce qu'elle, elle s'est pas ramassée à la cour du Sanhédrin, élevée sous une position. C'était une femme méprisée, anonyme. Mais son culte personnel à Dieu n'est pas passé inaperçu. Et comme on a lu, des royaumes sont passés, sont montés, sont tombés, mais son témoignage de son culte personnel à Dieu fait que son évangile a été prêché dans le monde entier jusqu'à ce jour. Le dernier personnage dont je vais vous parler, ça me touche énormément. Parce qu'ici, on nous a parlé de Joseph, on nous a parlé de Daniel, on nous a parlé de Marie-Madeleine. Mais le prochain personnage dont je veux vous parler, je ne connais même pas son nom. La Bible ne le cite pas. Peut-être que vous savez de qui je veux parler. On l'appelle juste la jeune Israélite. C'est dans l'histoire de Naaman. Et on va trouver un autre principe pour être la lumière du monde. Alors, c'est une petite fille. C'est ce qu'on nous dit. On ne nous dit même pas son nom. Mais elle a eu un impact majeur dans l'Évangile. On trouve ça dans 2 Rois 5, verset 3. 2 Rois 5, verset 3. Donc, vous connaissez l'histoire. Naaman est le général d'armée du roi de Syrie. C'est un vaillant homme, mais il a la lèpre et il va recevoir la guérison. Je ne vais pas lire l'histoire, mais je vais juste attirer votre attention sur le verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, cette jeune fille, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » C'est intéressant parce que la Syrie avait envahi Israël et cette fille-là avait été emmenée captive pour être au service de Naaman. Donc, mettez-vous à sa place. Vous vivez en paix avec vos parents. Un autre pays vient vous faire la guerre, vous sépare de votre famille, fait de vous une esclave pour mettre au service de l'ennemi. Est-ce que ça vous tente de lui donner des indices, là, comment aller être guéri? Alors, je me suis toujours posé la question, comment quelqu'un qui a vécu une histoire aussi difficile trouve ce moyen-là? Puis j'ai trouvé juste une réponse. C'est la suivante. C'est quand on a une incapacité à garder une bonne nouvelle, peu importe les circonstances. Vous savez, à l'école, quand vous étudiez, et puis là, il y a les examens ou des travaux à remettre, il y a certaines personnes où il y a vraiment un bon travail d'équipe qui se fait, tout le monde collabore, mais il y a toujours ces élèves qui ne veulent pas partager la connaissance. J'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai cherché les livres, je ne vais pas te dire comment y arriver. C'est comme, va faire tes recherches, puis débrouille-toi. Parce que ça, c'est souvent un esprit de compétition. Parce que si je t'aide, peut-être ça va être aussi bonne, sinon de meilleures notes que moi. Alors, je ne vais pas te laisser, je vais te laisser dans ton jus. Je vais garder ça avec l'espoir d'avoir la meilleure note et me démarquer, etc. Mais cette fille-là, malgré son état, elle, tout ce qu'elle voit, c'est comme, je connais quelqu'un qui a une solution à ton problème, voici. C'est intéressant parce que Naaman n'est pas n'importe qui. Cette fille-là, c'est juste une petite Israélite qui est au service de la femme de Naaman. Elle dit deux, trois paroles. Puis là, lui, il va aller voir son maître, là, le roi de Syrie, va dire, la jeune fille a parlé de telle et telle manière. Depuis quand on se préoccupe de qu'est-ce qu'un simple esclave a à donner comme avis? Puis ça, je peux vous dire, pour l'avoir expérimenté, que quand le Seigneur veut vous utiliser, ça n'a aucune importance à quel niveau social que vous êtes. Il va vous utiliser et les gens vont donner du crédit à ce que vous dites. Et on a vu ça dans la vie de Joseph, de Daniel. Et on voit ça dans la vie de cette fille-là. Et aussi, je dirais que ça prend une incapacité à rester indifférent aux besoins de ceux qui nous côtoient. Si vous avez ça en vous, vous avez ce qu'il faut pour être une lumière du monde. Et je crois que cette fille-là avait ça en elle. Dans Ministère de la guérison, page 408, on nous dit ceci. Parce que c'est intéressant, cette fille-là, elle n'est pas passée. L'histoire ne nous dit pas ce qu'elle devient. Elle n'est pas passée de la captivité au statut d'intendant du roi de Syrie. Elle arrive dans l'histoire anonyme qu'on n'entend plus jamais parler d'elle. C'est la seule fois qu'on entend parler d'elle et qu'on ne sait même pas son nom. Mais c'est intéressant ce qu'on nous dit dans le ministère de la guérison. Si le Seigneur nous envoie comme Jonas à Ninive, il ne veut pas que nous nous rendions à Joppé ou à Capernaum. Il a des raisons pour nous envoyer là où nos pas ont été dirigés. Peut-être y a-t-il où nous sommes quelque âme à secourir. Celui qui conduisit l'évangéliste Philippe vers le ministre éthiopien, l'apôtre Pierre vers le centenier romain et la jeune fille israélite vers le capitaine syrien Naaman envoie aujourd'hui des hommes, des femmes, des jeunes gens pour leur représenter auprès de ceux qui ont besoin des secours et des directives célestes. Je trouve cette citation intéressante parce qu'on peut dire, oui, Pierre était apôtre, il avait reçu cette mission-là. On peut dire, Philippe était apôtre, il a reçu cette mission-là. Mais dans la même catégorie, on met la fille syrienne comme quelqu'un qui a été, la petite Israélite, comme quelqu'un qui a été envoyé pour Naaman. Alors, sa captivité change complètement de perspective. Elle n'était pas là pour être une petite captive. Mais le Seigneur avait vu Naaman. Naaman avait besoin de quelqu'un qui avait Dieu à offrir, puis lui a envoyé une petite fille anonyme dont on ne connaît même pas le nom. Mais qu'aujourd'hui, on connaît encore son témoignage. Et la preuve est celle-ci. Si vous allez dans Luc 4, versets 25 à 27, qui amène mon prochain principe, c'est que des fois, le Seigneur peut vous envoyer quelque part pour une personne spécifique. Dans Luc 4, versets 25 à 27, il va dire quelque chose de très intéressant. Luc 4, versets 25-27. Jésus, parlait à ceux qui avaient le cœur endurci. Et au verset 24, on nous dit, mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Verset 25, je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et demi, et il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman Syrien. Autant dans l'histoire de la veuve de Sarepta que dans l'histoire de Naaman, ces deux personnes-là n'étaient pas des Israélites. Il y avait des gens parmi le peuple de Dieu qui avaient les problèmes que ces gens avaient. Aucun d'eux n'ont reçu le secours que ces païens ont reçu. Puis pour ça, le Seigneur leur a envoyé des gens. Et ça, ça m'appelle à vous dire qu'on doit être une lumière du monde pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et parfois, le Seigneur va nous envoyer dans des endroits pour une personne. C'est intéressant parce que Jaffa a vraiment pour but de réveiller les jeunes dans l'église. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est ceux qui sont dans l'église qui dorment le plus. Et que le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu la lumière. Puis s'il faut qu'il crée des circonstances pour vous envoyer là, il va les créer. Mais c'est de voir que vos circonstances de la vie ne sont pas une excuse pour ne pas être la lumière du monde. Vous pouvez être une lumière anonyme. Il y en a parmi vous qui n'auront pas le sort de Daniel puis de Joseph, qui ne seront jamais appelés à la cour du roi, puis d'avoir cette visibilité pour être la lumière du monde. On ne connaîtra jamais votre nom peut-être, on ne saura jamais qui vous êtes. Pourtant, vous êtes quelqu'un de précieux que le Seigneur a mis à part pour soulager et apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Dans Jésus-Christ, page 395, juste pour terminer cette partie-là, on dit « Jésus ne fit aucun autre miracle au cours de ce voyage. C'était en vue de l'accomplissement de cette guérison qu'il s'était rendu au voisinage de Tyr et de Sidon. » Je reviens à la femme syrophénicienne qui avait l'enfant possédé. On nous dit que c'est la seule raison pourquoi il est passé par là. C'est pour la guérir. Encore une personne qui n'était pas israélite, mais qui avait soif du Dieu vivant. Alors, il n'y a pas une personne qui a soif du Dieu vivant, qu'il le sache ou qu'il ne sache pas, vers qui le Seigneur n'enverra pas quelqu'un. Un petit peu comme il a envoyé Windor hier vers cet homme qui cherche Dieu, ou peut-être Aboul sur l'homme qui n'est pas intéressé, mais qui prend les informations quand même. Dans Daniel 12, verset 3, il y a un texte qui nous interpelle beaucoup et c'est un texte pour les temps de la fin. Ça nous parle de ceux qui enseignent la justice, c'est-à-dire les ambassadeurs de Jésus-Christ. Parce que prêcher la bonne nouvelle, c'est enseigner la justice, c'est révéler le véritable caractère d'amour et compatissant de Dieu. Dans Daniel 12, verset 3, on nous dit « Ceux qui auront été intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. » Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et je vais passer la dernière partie de mon message à vous parler de ce que c'est que d'être une étoile. Dans le monde d'ici, tout le monde veut être une superstar, tout le monde veut être une étoile. C'est drôle parce que le Seigneur aussi. Il ne veut pas qu'on soit une étoile selon le monde, mais selon Dieu. C'est intéressant parce que les étoiles, qu'est-ce qu'on peut savoir des étoiles? Bien, premièrement, elles brillent. Quand? La nuit. Elle brille où? Dans le ciel. Les étoiles aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont une position spécifique dans le ciel. Les étoiles servent aussi à se guider. Si on est perdu, puis on a un ciel qui est clair et on voit bien les étoiles, en repérant les étoiles, on peut savoir où est le nord et se repérer. Puis, le dernier point au sujet des étoiles, c'est qu'elle reflète une portion de la source lumineuse. Parce qu'on sait qu'une étoile n'est pas une source lumineuse, c'est ce qu'on appelle un objet éclairé. Et il y a une source lumineuse qu'elle reflète. Donc, dépendamment de sa position, elle va refléter une portion de la lumière solaire. Et à travers les personnages dont je vous ai parlé, pourquoi est-ce qu'elles ont été lumière du monde? C'est parce qu'elles ont reflété une portion de la grande lumière de Jésus-Christ. On a vu que Daniel et Joseph, ils ont été intègres et fidèles à Dieu. Donc, ils ont reflété cet aspect de Jésus-Christ où il est fidèle à Dieu. Il a dit, j'ai gardé tous tes commandements. Puis parce que c'est un reflet de la personnalité de Dieu, c'est une lumière dans le monde, parce que Jésus a dit qu'il est la lumière du monde et qu'on est la lumière du monde. Ils ont été excellents. Et ça reflète un aspect de la personnalité de Dieu, parce qu'on a dit de Jésus, il fait tout à merveille. Marie-Madeleine a reflété une portion de la lumière de Jésus, une portion de la personnalité, du caractère de Jésus, par son amour débordant, parce que Jean 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde. » La petite Israélite anonyme dont on ne connaît pas le nom a reflété une portion du caractère de Dieu, par son incapacité de demeurer indifférent aux besoins de l'humanité. À plusieurs reprises, Jésus, lorsqu'il voyait la foule languissante, on disait qu'il était ému de compassion. Et elle n'a pas pu garder la bonne nouvelle pour elle non plus. Dans Jean 5, 17, Jésus dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Dans son incapacité à garder la bonne nouvelle, elle reflète Jésus parce que Jésus disait dans Luc 4, 43, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Quand Jésus fait de vous la lumière du monde, il va vous faire transcender la culture, la classe, la religion, l'âge. Car la lumière qui est venue dans le monde et que nous sommes appelés à refléter, Jean 1 nous dit que c'est la lumière, la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Et ce, peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Vous n'avez pas besoin d'être dans des circonstances, vous n'avez pas besoin d'être dans des circonstances propices pour être une lumière. Au contraire, c'est quand les circonstances ne sont pas propices que vous êtes une lumière, parce que les étoiles, ça brille la nuit. On fait beaucoup de programmes pour l'évangélisation, mais parmi tous les personnages que je vous ai présentés, combien sont allés au Festival des laïcs, parmi Daniel, Joseph, Marie-Madeleine et la jeune Israélite? Combien sont allés à des séminaires de Jaffa? Combien ont fait des plans pour évangéliser? Combien d'entre eux étaient dans des petits groupes? Je ne suis pas en train de diminuer aucune de ces méthodes. Ce sont toutes des méthodes bibliques approuvées par Jésus. Mais à la lumière de ce qu'on a lu, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça pour briller? Pas vraiment. Ce que le Seigneur est en train de nous dire à travers l'histoire de ces gens-là, ce n'est pas tant ce qu'ils ont fait qui ont fait de la lumière du monde. C'est ce qu'ils étaient. Une portion du caractère de Jésus. Et ça, ça ne passe pas inaperçu. Ça ne peut rester caché. Et j'en ai fait l'expérience personnelle. Le Seigneur m'a montré à travers mon emploi qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas être la lumière du monde. Et c'est quand je n'essayais pas d'évangéliser de façon intentionnelle que ça s'est passé. J'ai mon patron dans l'ancien emploi où j'occupais, avec qui j'avais pu parler un petit peu de la religion, etc., etc. Puis comme pour une raison X, dans cet emploi-là, on était une petite entreprise, mais on venait de différentes cultures. Il y avait des musulmans, différentes choses. Donc la religion, on la sentait un petit peu. Et à un moment donné, mon patron, lors d'un repas avec moi et un autre employé, nous demandait pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il y a une religion qui est meilleure que l'autre? Parce que lui, il ne croit pas vraiment en Dieu. Peut-être qu'il y a un Dieu qui existe, mais ce n'est pas certain. Puis là, j'ai commencé à expliquer pourquoi je pensais que ma religion était supérieure. Alors, je comparais avec les religions. Je lui disais, par exemple, dans le Coran, tu vas lire que tu ne dois pas faire certaines choses, mais si tu es dans une situation extrême, par exemple, tu ne dois pas voler. Mais si tu es dans une situation extrême où tes enfants ont faim, bien là, tu as le droit de prendre du pain pour leur donner. Apparemment, c'est écrit dans le Coran. Je dis, mais le Dieu que moi, dans lequel je crois, m'a dit de ne pas voler parce que Il s'occupe de tous mes besoins. Il ne va jamais me laisser tomber. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je préfère croire dans un Dieu qui va s'occuper de tous mes besoins au lieu de me laisser m'abaisser à avoir à voler. Là, je parlais de l'hindouisme. J'ai dit, l'hindouisme, par exemple, il croit dans la réincarnation, qu'à chaque fois, tu dois retourner dans une autre vie pour essayer d'améliorer ton sort. Moi, j'ai un Dieu qui m'a promis que le mal doit être éradiqué une fois pour toutes. Ça fait beaucoup plus mon affaire. Alors, quand j'ai exposé tout ça, il réfléchissait. Puis mon patron est québécois d'origine. J'avais un de mes collègues, lui, il travaillait dans une branche de l'inspection du bâtiment qui faisait qu'il travaillait comme beaucoup et on lui cédulait des inspections comme le samedi. Mais moi, j'avais expliqué pour mon sabbat que moi, je ne travaillais pas le samedi, etc. Puis il travaillait beaucoup, puis on cédulait tout le temps. Puis on le faisait beaucoup travailler, il y avait beaucoup d'inspections, peu de temps pour remettre ses rapports. Et là, un jour, il m'expliquait comment il était vraiment fatigué. Et là, il m'expliquait, il travaille toute la semaine. Après ça, il faut qu'il travaille le samedi. Quand il rentre à la maison, il y a des rénovations dans le sous-sol. Puis là, il faut qu'il en fasse un peu. Il faut qu'il s'occupe de ses enfants. Puis il disait, je suis vraiment, vraiment fatigué. Puis là, sans réfléchir, parce que j'avais tellement pitié pour lui, je dis, toi là, tu as besoin du sabbat. Parce que j'avais expliqué un petit peu c'était quoi le sabbat. Parce que je dis, moi, je n'ai pas le droit de travailler. Le Seigneur, il veut que je me repose. Je dis, tu aurais besoin du sabbat. Puis pour la première fois, je pense, dans ma vie, j'ai comme vraiment vu l'importance du sabbat, qu'on avait quelque chose que les autres n'ont pas, puis que c'est désirable. On n'a jamais, on présente pas le sabbat comme une chose désirable. Bon, je peux pas écouter la télévision, je peux pas faire ci. Mais pour la première fois, c'était vraiment une bonne nouvelle parce que je le regardais, puis j'étais comme, je suis trop contente de pas être dans ta situation. Mais c'est sorti tout seul, mais ça rend ça désirable pour lui. Puis ce collègue-là, lui, il est syrien. Il vient de la Syrie et il est grec orthodoxe. Quand il est en train d'accompagner, on s'évite, bien entendu, parce qu'il est religieux aussi. Donc, ça faisait un autre chrétien dans la place. Puis pour le concours de circonstances, parce qu'il semble qu'il manque des enzymes qui ne fonctionnent pas, il ne peut pas tolérer la viande, fait qu'il est végétarien. Fait, tu sais, ça a bien marché tout de suite. Puis, justement, c'est intéressant pour ce gars-là parce que il y avait quelque chose qui le troublait énormément parce qu'il se rendait compte, il est venu ici, il se rend compte qu'il y a beaucoup de musulmans à Montréal. Puis ça l'inquiétait parce que lui, il a vraiment vu, tu sais, il vient de la Syrie, chemin de Damas, donc c'est une zone très chrétienne, mais il a vu comment les églises ont fermé, que beaucoup de mosquées ont réparé. Puis il avait une certaine amertume par rapport aux musulmans qui n'arrivaient pas à cacher, surtout qu'il y avait un autre dans l'emploi qui était musulman. Et là, je trouvais qu'il était trop en détresse. Puis à un moment donné, j'étais à la maison, puis j'étais comme, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais lui dire pour lui faire confiance? Parce que ce que j'ai découvert en parlant avec lui, il dit, mais où est Dieu? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu les laisse prendre la place comme ça? Parce que eux, ils sont des terroristes, ils veulent tout détruire. Puis je voyais qu'il était tellement troublé. Puis à un moment donné, je réfléchissais, puis il était un de ceux avec qui j'étais lorsque je parlais à mon patron, pourquoi je disais que je trouvais que la religion chrétienne était meilleure. Et là, il y a quelque chose qui a juste passé. Parce que cette journée-là, j'avais parlé à mon patron, je ne sais pas comment, on avait parlé des prophéties, j'avais le temps de lui parler de Daniel 2, puis de la statue, puis de l'histoire, comment le Seigneur contrôlait l'histoire. Puis quelque chose m'a passé, mais je crois que c'est Saint-Esprit qui m'a inspiré. Je suis retournée, puis je suis allée voir ce collègue-là, j'ai dit, écoute, laisse-moi te dire, est-ce que tu crois en Dieu? Il m'a dit oui. Est-ce que tu crois qu'il contrôle l'avenir? J'ai dit, écoute, tu te rappelles qu'on parlait, je te parlais de la prophétie, puis tout ça? D'après cette prophétie, cette prophétie indique que les musulmans ne seront jamais une puissance mondiale. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ils peuvent avoir l'impression qu'ils prennent beaucoup d'ampleur, mais ce livre-là indique qu'ils ne seront jamais une puissance mondiale. Puis là, il m'a dit, Karine, tu me parles, j'ai des frissons. Je sens mon poil qui tourne. Il dit, c'est comme un poids qui tombe de mes épaules. Puis il était tellement content. Puis justement, j'avais cet autre collègue musulman. Lorsque j'ai quitté mon emploi, je suis partie, je suis allée dire au revoir à tout le monde. Puis lui, c'est vraiment un musulman comme très pratiquant. Il fait le ramadan et tout. Tu sais, il y a comme la barbe. Puis je m'en rappelle parce que lorsqu'il y avait eu une année, les vacances de Noël, je suis partie pour saluer. Puis là, il m'a dit, écoute, prends-le pas mal, mais tu sais, je peux pas te saluer. Donc, parce qu'il faut pas qu'il touche les femmes pour pas devenir impur. Donc, il y a des gens, ils peuvent pas te donner la bise. C'est pas tous les musulmans, mais il y en a ceux peut-être qui sont plus pratiquants pour rester purs, ils peuvent pas. Tu sais, j'ai dit, écoute, je comprends ça, puis tout ça. Puis quand j'ai terminé mon emploi, je suis allée le voir, puis j'ai dit, écoute, Mohamed, j'ai dit, inquiète-toi pas, je sais que tu peux pas saluer les femmes, là, tout ça. Puis il dit, non, écoute. Puis il a dit, écoute, je veux te dire ceci. Puis je dis, je te le dis du fond de mon cœur. T'es vraiment quelqu'un de bien. Tu respectes les gens, tu les traites avec respect. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas trop gentilles avec lui, qui disaient allô à tout le monde, mais pas à lui. Mais moi, j'ai toujours salué, j'ai toujours donné de l'information, etc. Puis il m'a dit, t'es vraiment quelqu'un qui te soucie des gens. Puis je voulais te le dire, puis je te dis pas ça comme ça, je te dis du fond de mon cœur, puis il dit, je prie même Allah pour toi. C'est celui que mon autre collègue pensait que c'était un terroriste en secret. Et moi, ça m'a touchée, parce que je m'attendais pas à ça. Puis lui était musulman. Dans un autre emploi où on était, c'est un service téléphonique, parce que j'ai comme pas travaillé dans mon domaine pendant quelques mois, on était dans une pièce, puis on était beaucoup, puis on faisait du traitement de données, à l'ordinateur. Et c'était la fois où il y a eu le tsunami au Japon. Puis là, on regardait les images, là où est-ce qu'on voyait vraiment les coulées de boue, là, qui ont juste allé à la vitesse de l'éclair. Puis à un moment donné, les gens, évidemment, ils se demandaient, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Ils commencent à parler, il se passe des choses, là, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, j'étais là, je disais rien, je suis comme, tout. J'étais comme, je voulais pas parler. Mais il y a quelque chose qui me disait, Karine, tu vois pas que c'est le temps de témoigner? Puis j'étais comme, là, il y avait une à côté de moi, puis j'ai dit, en tout cas, la Bible a parlé de ces événements-là. Puis là, elle commence à me poser plus de questions. Fait que j'ai pris la porte, puis j'ai commencé, puis là, tout à coup, tout le monde commence à écouter, là. Alors là, je parle tout ça. Puis c'est bien parce que plusieurs d'entre eux étaient français. Mais il y en a une autre qui était française d'origine guadeloupéenne et togolaise. Plus tard, on a pris notre pause, puis elle dit, la manière comment tu parlais de ta foi, là, ça m'a vraiment touchée. Parce que moi aussi, je suis croyante, je crois en quelque chose, mais la manière comment tu en parlais, là, c'est comme, tu as vraiment bien défendu tes points, c'était vraiment logique, puis tout ça. Puis ça l'avait touchée. Puis là, j'avais une autre collègue. Elle vivait beaucoup de situations parce qu'elle était venue de France. Elle voulait s'installer ici, mais elle était sur ce qu'on appelle un permis vacances-travail. Puis elle essayait vraiment, puis elle pouvait plus se concentrer au travail. Elle était toujours, qu'est-ce qui va arriver? Mon PVT fini, ma date d'échéance arrive. Puis elle était juste trop troublée, ça me troublait pour elle. Puis à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, she needs rest. Elle a besoin de repos. Puis ce que j'ai fait, je suis allée acheter une carte. Puis j'ai juste écrit un verset d'Ésaïe. J'ai dit, c'est dans le repos et la tranquillité que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Puis je lui ai laissé ça comme ça. Puis là, après ça, elle a lu plus tard. Puis le lendemain, elle m'a dit, ça m'a vraiment touché, qu'est-ce que tu as écrit? Puis elle m'a dit, puis elle dit, c'est étrange parce que moi, je suis comme plus de confession bouddhiste, parce qu'elle est laotienne. Mais ça l'a touchée. Puis finalement, elle a quitté l'emploi, puis elle a trouvé un emploi permanent qui va lui permettre de rester. Puis elle m'a écrit, puis elle m'a dit, je lis encore le mot que tu m'as donné. Puis finalement, j'en ai d'autres encore. Puis je voulais juste parler des deux derniers. Il y en a un, c'était, il y avait beaucoup de Français dans cet emploi-là. Puis vous savez, les Français, idolâtrent la raison. On sait que c'est un peuple extrêmement séculier. Puis il y en avait un qui était français, l'autre était belge. Le français, lui, il était comme plus ou moins athée. Puis le belge était plutôt nouvel âge, là. C'est Dieu en moi, canaliser l'énergie, tout ça. Puis à un moment donné, il parlait, s'il croyait en quelque chose. Puis là, j'étais des personnes dans le bureau, on était juste trois. Puis là, ils se parlaient entre eux, puis s'ils croyaient en quelque chose. Puis là, moi, j'écoutais, j'étais comme. Puis après ça, tout à coup, toi, Karine, tu crois en quelque chose? Là, je suis comme. Tout-tout-tout. Là, je dis, OK, Seigneur, laisse-moi pas te renier. Là, je dis, oui, je crois en quoi? Il dit, en quoi tu crois? Je dis, la Bible. Puis là, j'ai commencé à parler de la conception intelligente, le design intelligent, etc., etc. Ensuite, j'ai parlé de la Bible, pourquoi je m'en inspirais, pourquoi je la trouvais digne de confiance et tout et tout. Puis à la fin, le français, il m'a dit, écoute, j'ai parlé avec beaucoup de chrétiens, mais c'est la première fois que quelqu'un me dit des arguments qui ont l'air tellement logiques. T'écoutes ça, t'as envie de croire. Puis là, j'étais, wow. Puis tout ça s'est passé en l'espace de 2 ans et le Seigneur m'a fait réaliser quelque chose. Comme en 2 ans, il m'a permis de parler comme québécois, syrien, musulman, mexicain, français, guadeloupéen, laotien, belge. On pense qu'on ne peut pas atteindre les Québécois. Mais c'est des excuses. Parce qu'on vient de voir aujourd'hui qu'avec tout ce que la lumière du monde, c'est ce que tu es, puis la portion de lumière que tu reflètes de Jésus-Christ. Et que cette lumière-là ne peut pas rester cachée et elle attire. Il n'y a pas de raison culturelle. Le Seigneur peut te placer à Chicoutimi puis t'amener des âmes. Il peut te placer n'importe où puis il va te placer là où il y a un besoin. Et si on accepte d'être la lumière du monde comme le Seigneur nous l'enseigne de l'être, on n'a pas à s'inquiéter. Quand bien même qu'on ne voudrait pas témoigner, on ne peut pas rester caché. Je vais lire ce petit passage-là que j'ai trouvé qui m'a aidé dans les différentes expériences donc, que j'ai partagées avec vous. C'est un pamphlet numéro 120. Ça, c'est plus par rapport peut-être à des grandes villes comme Montréal et même Québec. Cela fait de nombreuses années que des étrangers en provenance de tout pays débarquent sur nos côtes, au point où la population d'Amérique est largement d'origine étrangère. Ces grandes villes sont pratiquement des villes d'étrangers. La providence y est pour quelque chose. L'expérience de la Pentecôte doit se répéter. C'est le dessein de Dieu que des hommes de toutes les nations qui sont sous le ciel rassemblés dans ces lieux, les grandes villes, entendent le dernier message de miséricorde et qu'ils le portent en retour à leurs amis et leurs voisins. Donc, tous ces mouvements de masse d'immigration dans des grandes villes d'Amérique ont quelque chose à voir avec la proclamation du message des trois anges. On va terminer avec les fameuses étoiles. Venez avec moi dans Genèse 1, verset 17-18. Mais juste avant, on va lire la dernière citation de prophète et roi à la page 141. On nous dit ceci, juste avant de lire Genèse. Parmi les habitants de la terre répandus dans toutes les nations se trouvent des hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, comme Noé. Semblables aux étoiles qui n'apparaissent qu'à la nuit Ils brilleront lorsque les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité des peuples. Plus la nuit sera sombre, plus vif sera leur éclat. Allons ensemble dans Genèse 1, verset 17-18. Ça va être notre dernier texte. On nous parle de comment les étoiles ont été créées. Dans Genèse 1, verset 17-18, on lit ceci. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour présider au jour. Posez-vous les questions suivantes. À travers ce que vous avez entendu, je crois que les questions que le Seigneur, sur lesquelles le Seigneur veut que vous réfléchissiez sont les suivantes. Est-ce que je suis prêt à occuper la place que le Seigneur m'a assignée? On a vu que les étoiles ont une place spécifique dans le ciel. Est-ce que je suis prêt à laisser la parole de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, redéfinir mes principes de vie et m'amener à être une véritable conversion afin d'être la lumière dans le monde, d'être une lumière dans le monde? Est-ce que je suis prêt à ce que mes principes soient redéfinis par la parole de Dieu, par l'action de son Saint-Esprit, pour faire de moi la lumière du monde comme le Seigneur prévoit que je sois? Suis-je prêt à refléter la portion de lumière qui fait briller sur moi? On a vu que les étoiles président au jour. Il y a un soleil de justice qui doit se lever. Et les étoiles sont là pour présider, pour annoncer que le jour s'en vient. Est-ce que je suis prêt à briller dans la nuit pour préparer l'arrivée du soleil de justice? Parmi nous, il y en a plusieurs, on sait qu'on doit être la lumière du monde. Ce n'est pas qu'on ne le sait pas. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, après avoir entendu le message d'aujourd'hui, reconnaît qu'il n'y a pas d'excuse pour être une lumière du monde? Qu'il n'y a pas de circonstance particulière pour décider quand est-ce qu'on doit être la lumière du monde? Et que Dieu a la possibilité de me faire briller, peu importe les circonstances, mais que je n'ai pas laissé cette lumière briller, je me suis cachée derrière des excuses, mais aujourd'hui je reconnais que Dieu m'appelle à être une lumière du monde, à briller pour lui, et je veux me reconsacrer pour avoir l'intégrité, l'excellence de Joseph et Daniel, l'amour débordant de Marie-Madeleine, l'incapacité à rester indifférent aux besoins des autres et à garder une bonne nouvelle pour moi. Je veux être ce type. Je veux avoir ces traits de caractère de Jésus qui fait que je suis une lumière du monde qui ne peut rester cachée quand bien même je veux passer incognito. Si vous vous êtes reconnu dans ce message-là et que vous voulez vous reconsacrer à Dieu, je vous invite à vous avancer. On va s'agenouiller et on va prier ensemble. Ceux qui ont vraiment senti un appel à travers ce message-là. Prions. Père éternel, tu es la lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme, parce que tu es l'effigie de la perfection. Et tu nous as transféré ce mandat. Pendant que tu étais dans le monde, tu étais la lumière du monde, mais là tu es en haut, tu intercèdes pour nous, mais la lumière doit continuer à briller. Et tu as fait choix de nous. Et nous avons vu, Seigneur, que bien que tu approuves tous les programmes que nous faisons, bien que tu bénis toutes les méthodes que tu nous as toi-même recommandées de faire, la véritable source ou le véritable principe pour être une lumière dans le monde, c'est d'accepter d'occuper la position que tu nous as assignée et de refléter la lumière que tu fais jaillir sur nous. On n'a pas été fidèles. On a eu peur, Seigneur, d'être dans des circonstances adverses. On a vu que Daniel, Joseph et la petite Israélite étaient trois captifs. Ce n'était pas une excuse pour eux pour ne pas être la lumière du monde. On a vu que Marie-Madeleine était une femme méprisée, rejetée. Ce n'était pas une excuse pour elle pour ne pas être la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et bientôt, le jour doit paraître. Tu reviens bientôt. Et les ténèbres sont là. Et tu as besoin d'étoiles éclatantes qui enseignent la justice. Nous voulons être ces étoiles, ayant maintenant l'assurance qu'aucune circonstance ne peut nous empêcher d'être une lumière. Fais briller ta face sur nous. Préserve-nous. Et montre-nous, Seigneur, tout ce que tu peux faire à travers nous pour amener les gens qui ont soif de toi. Sanctifie-nous. Scelle ce message dans nos cœurs et transforme-nous pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus. Amen.